Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Stanislas Dehaene, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue cognitif, professeur au Collège de France, directeur de l'unité mixte INSERM-CEA à Saclay, Neurospin à Saclay, membre de l'Académie des sciences, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique intitulés « Les neurones de la lecture » ou encore « La bosse des maths » qui, je précise, n'existe pas. Et le dernier en date, dont vous avez eu cette fois-ci la direction, « Apprendre à lire », un ouvrage collectif publié aux éditions Odile Jacob en 2011, destiné cette fois-ci plus spécifiquement aux enseignants et aux parents, puisque vous écrivez en substance que pour enseigner la lecture, il faut comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Justement, Stanislas Dehaene, que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous apprenons à lire ?
Bien, la lecture est une invention qui nous permet d'accéder aux aires du langage de notre cerveau par le biais de la vision. Quelque chose qui n'avait pas été anticipé par l'évolution. Il est probable que l'évolution de l'homme a permis de mettre en place un circuit pour le langage parlé, mais le langage écrit est une invention culturelle nouvelle. Alors nous avons créé des systèmes de symboles, des lettres ou des caractères, qui permettent facilement à notre système visuel de reconnaître la combinatoire de ces objets et d'accéder par ce biais-là à la fois à la prononciation des mots et à leur sens. Donc toute lecture consiste d'abord à reconnaître la chaîne de lettres. Il y a une région bien précise dans le cerveau que j'ai appelée, de façon un petit peu amusante, la boîte aux lettres du cerveau. C'est une région qui s'intéresse donc à l'analyse de la chaîne de lettres, la manière dont les lettres sont organisées dans l'espace. Et sur cette base-là, notre cerveau va accéder à une représentation des phonèmes, la prononciation du mot, et également à une représentation du lexique. De quel mot s'agit-il et quel est son sens?
Alors pour l'enfant maternel, cette décomposition en phonèmes n'a rien d'évident.
Exactement. Donc en réalité, apprendre à lire, c'est à la fois mettre en place ce code visuel, mais aussi les connexions de ce code visuel vers le code du langage parlé. Et le code du langage parlé doit changer avec la lecture. Les petits-enfants comprennent ce que c'est qu'une syllabe, ils ont une notion de l'organisation du mot en syllabe, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un phonème. C'est-à-dire la plus petite unité significative du langage parlé. La différence entre « ba » et « ga », par exemple, porte sur le phonème, la consonne initiale de la syllabe « ba » ou de la syllabe « ga ». Eh bien, le code phonologique est en grande partie le résultat de l'apprentissage de l'alphabet. Il faut que l'enfant apprenne à reconnaître qu'il y a le même son dans « ba », dans « beau », dans « be ». Et c'est une grande difficulté pour l'enfant qui fait partie des difficultés de l'apprentissage de la lecture.
Donc, un entraînement, une répétition qui doit se dérouler déjà en maternelle.
Alors, la grande maternelle est le moment de préparer l'enfant à la lecture. Et tous les jeux de langage préparent l'enfant à la lecture. On peut jouer avec les rimes, lui faire reconnaître qu'il y a des mots qui riment ensemble, couvreur, travailleur. On peut lui faire reconnaître qu'on peut déplacer les sons du langage, ça c'est déjà très très important. Ou lui faire tout simplement compter. Combien il y a de syllabes dans un mot, boucher, deux syllabes, deux objets, et puis progressivement lui faire reconnaître qu'à l'intérieur de ces objets eux-mêmes, il y a des choses qui sont les phonèmes. Tous ces petits jeux donc préparent l'enfant à la lecture.
Le français est-il une langue plus difficile à lire qu'une autre langue ?
Le français fait partie des langues difficiles à lire. Au sein des langues alphabétiques, toutes les langues ne sont pas égales. Il y a ce qu'on appelle la transparence de la langue, c'est-à-dire le fait que les lettres puissent se référer à des sons uniques ou pas. En allemand ou en italien, chaque lettre correspond pratiquement à un seul son. Donc lorsque vous connaissez la prononciation de chaque lettre, en italien, vous savez lire pratiquement. Et les enfants italiens mettent quelques mois pour apprendre à lire. Ça n'est pas le cas en anglais, et le français est la deuxième langue européenne la plus difficile, puisqu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Dans le mot « femme », par exemple, vous devez apprendre que le premier « e » se prononce « a ». C'est une exception. Il y a des choses comme T-I-O-N, il faut apprendre que ça se prononce Sion et pas Tion. Vous voyez? Alors si l'on regarde de près, le français comporte toute une série de graphèmes complexes et de prononciations particulières de certains graphèmes, c'est-à-dire de combinaisons de lettres.
Alors on voit bien que le français est une langue particulière, difficile. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais lecteur ?
Mais progressivement, au cours de l'apprentissage de la lecture, on va voir dans le cerveau de l'enfant se spécialiser les régions qui s'intéressent à la lecture. Et la différence principale, la plus facile à voir peut-être dans le cerveau d'un lecteur en train d'apprendre, c'est le passage du sériel au parallèle. L'enfant doit au départ décrypter les lettres et il doit vraiment apprendre que ça se fait de la gauche vers la droite, que chacune des lettres ou groupe de lettres va correspondre à un son du mot cible et que donc il y a une correspondance entre l'espace du mot et la temporalité du mot parlé, entre l'espace du mot écrit et la temporalité du mot parlé. Au départ, ça se fait donc de façon séquentielle et progressivement, le cerveau de l'enfant va apprendre à le faire de façon parallèle. Et chez un lecteur expert, chez un adulte, comme vous et moi, nous posons notre regard sur un mot et l'ensemble des lettres sont traitées en parallèle. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons une espèce d'illusion de lecture globale. On croit que le cerveau fonctionne d'une manière globale en tenant compte uniquement du profil global du mot. Ce n'est pas le cas. Le cerveau continue d'analyser chacune des lettres et des combinaisons de lettres, mais toutes les lettres sont traitées en même temps, en parallèle. Et c'est ça qui est caractéristique d'une lecture experte.
Apprendre à lire nécessite aussi de former les lettres, vous l'expliquez dans votre ouvrage, d'associer le geste. Pourquoi ?
Effectivement, des chercheurs de Grenoble, en particulier Édouard Jantaz, ont montré que le fait d'apprendre le geste d'écriture contribue beaucoup à faciliter la lecture. Et donc, c'est une première recommandation d'ailleurs qu'on peut faire aux enseignants, c'est que enseigner dès la maternelle à faire le bon geste d'écriture, de la gauche vers la droite, avec des courbes particulières, eh bien, ça aide le cerveau à retenir les lettres. Ça l'aide à coder et à décrypter même visuellement de quelle lettre il s'agit, parce que pour décrypter une écriture manuscrite, notre cerveau utilise des régions qui s'intéressent à la prononciation du geste. Donc reconnaître, c'est aussi reconstruire le geste, si vous voulez. Et puis, notre cerveau dispose d'un code supplémentaire, le code du geste, qui facilite la mémoire de la lettre et de son association avec le son. Donc, tout ça forme un réseau, si vous voulez, plus élargi dans le cerveau lorsque le geste y est associé et donc plus facile à mémoriser.
Une mémoire qui passe aussi par l'écoute, la formulation des mots, bien entendre, c'est aussi, j'imagine, bien sûr, un élément important pour l'apprentissage de la lecture.
Il est évidemment essentiel que l'enfant entende les différences entre les mots, entendent donc au départ les différences entre syllabes, puissent ensuite progressivement en extraire les phonèmes. Il est clair que certains des enfants qui ont des difficultés en lecture, c'est simplement parce qu'il peut y avoir une surdité. Donc le dépistage de la surdité est l'un des éléments tout à fait essentiels lorsqu'un enfant est en difficulté.
Alors, dans le livre « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe », vous expliquez en substance que la méthode globale a provoqué des dommages. Mais pour autant, vous n'êtes pas non plus des extrémistes de la méthode syllabique. Alors, est-ce que selon vous, la bonne méthode, c'est justement la méthode semi-globale? Ou est-ce qu'il y a encore une autre méthode qui pourrait être appliquée pour l'apprentissage de la lecture?
Non, il ne s'agit pas du tout de méthode semi-globale, justement. Ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il y a des principes de la lecture, ce qui ne veut pas dire une méthode unique, mais des grands principes à respecter. Parce que tous les cerveaux de tous les enfants sont organisés de la même manière. Donc, je ne vais pas détailler tous les principes qui sont donnés dans le livre, mais disons que nous pensons que les grands principes du code alphabétique doivent être enseignés un par un aux enfants. Rien de la lecture n'est évident à l'enfant. Le fait qu'on aille de la gauche vers la droite, le fait que chaque lettre corresponde à un son, le fait que les combinaisons de lettres permettent de former des syllabes, le fait que déplacer une lettre du début vers la fin, par exemple, d'une syllabe, change complètement sa prononciation, tout ceci aide l'enfant à comprendre les principes du code alphabétique. Et ensuite, il s'agit de s'entraîner de façon régulière, tous les jours. La recherche en neurosciences a montré que la consolidation de l'apprentissage passe par une période de sommeil. Donc, il faut avoir un petit peu d'apprentissage tous les jours et un petit peu de sommeil pour le consolider. Et on peut donc dire très clairement qu'il faut répartir l'apprentissage tout au long de l'année. La concentration de l'école sur 4 jours est une absurdité. C'est une erreur massive qu'on a faite récemment. Il faut qu'au contraire que les parents soient impliqués pour tous les jours faire lire un petit peu. Il faut aussi, bien entendu, faire aimer la lecture. Il y a donc des principes généraux d'utilisation de l'attention et de l'affect de l'enfant, créer un contexte positif autour de la lecture, avoir dans les classes des matériels de lecture, des petits livres qui soient plaisants. Tout ceci, ce sont des principes qu'on énonce dans le livre pour essayer de faciliter l'apprentissage.
Alors, le plaisir, c'est un terme qu'utilise également la personne que je vous propose d'écouter. Donc, elle s'appelle Fabienne Dupin, elle est professeure des écoles en grande section de maternelle à l'école de la Moutère à Brive-Charensac. Elle a mis cette année en place le programme lecture dans sa classe, une expérimentation qui est aujourd'hui en voie de généralisation. Un programme lecture qui prône un enseignement structuré des compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture en CP, une forme de préparation à la lecture. Elle a accepté de répondre à nos questions par téléphone. On l'écoute et on démarre sur ces 3 compétences qu'elle nous explique en détail. Est-ce que vous pourriez nous présenter en détail ces 3 compétences ?
Oui. Alors la première, c'est donc la conscience phonologique. à savoir 2 séances par semaine de 30 minutes. C'est vraiment un travail oral, en petits groupes sous forme de ronde. Hein. Les élèves sont autour de l'enseignante. C'est un travail à partir de supports, de matériel assez sobre, dans le cadre du travail sur les phonèmes, les rimes, les syllabes, les sons, tout ça pour faciliter l'apprentissage de la lecture en CP. Ensuite, nous avons la compétence de la compréhension. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. Il s'agit d'affiner, de réinvestir un vocabulaire. C'est vraiment un travail entre les élèves, un travail oral de vocabulaire. Là aussi, on a un support qui est coloré et qui donc permet aux élèves de bien cerner les différences et avec un support d'image et de cerner les différences suite aux exigences demandées par la maîtresse. Et ensuite, il y a la compétence du code alphabétique qui, là, repose sur vraiment un travail sur la lettre, le nom de la lettre, comment elle se prononce, le son qu'elle fait et son écriture en cursive.
Vous avez réparti vos élèves par groupe. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez procédé ?
Alors, il y a eu une évaluation initiale en octobre. Chaque élève avait donc la même évaluation. Au vu des résultats, nous avons donc réparti les élèves en groupes de niveau homogène.
Cela, justement, présente un intérêt pour vous dans votre travail, mais à l'issue de l'année scolaire, vous allez pouvoir harmoniser ces différents niveaux ?
Oui, parce qu'on se rend compte qu'au fil des séances, eh bien, les élèves du groupe 4, donc ceux qui sont plus faibles, arrivent à pouvoir intégrer le groupe 2, le groupe 3, et on arrive à bien rattraper les difficultés qu'ils avaient en conscience phonologique. Ils arrivent à un bon résultat de conscience phonologique. Les élèves qui sont toujours un petit peu en difficulté et pour qui c'est plus long, on répète la situation, on refait la séance et ils réussissent. Donc au final, au bout des 32 séances, ils seront au même niveau.
Vous enseignez depuis 5 ans, je crois, hein, grande section. Quel constat faites-vous entre les méthodes que vous appliquiez avant et puis aujourd'hui ce programme lecture ?
Moi, je me rends compte qu'on est au mois d'avril et que j'ai déjà des enfants. Alors, on en avait dans les autres promotions de grande section, des enfants lecteurs, mais ça relevait plus de l'exception. Là, j'ai un tiers de la classe qui décode, qui déchiffre, qui est très, très intéressé par la lecture. Et puis, j'ai un groupe classe où je n'ai pas d'enfants en grosse difficulté scolaire. C'est-à-dire qu'on est arrivé, il me semble, avec cette méthode à donner confiance aux élèves, et même ceux qui étaient en grosse difficulté, ben, ils arrivent à réussir dans certains domaines, et du coup, ils prennent de l'assurance, ils ont une estime d'eux, et confiance en eux, confiance en l'école, et du coup, ben, ça présage d'une entrée au CP qui sera plus facile alors qu'elle s'avérait être un peu difficile.
Est-ce que selon vous, ça permet de prévenir les dyslexies qui pourraient être potentiellement masquées au CP, au CE1 au moment de l'apprentissage de la lecture ?
Oui. Cet entraînement organisé, systématique et répétitif va bien, à mon avis, oui, va bien prévenir, être vraiment là sous terme de prévention.
Pour la dyslexie ?
Oui. Oui, peut-être d'autres difficultés.
Dernière question sur le regard des parents. Comment les parents ont accepté ou non ce programme de lecture ?
Alors, on leur a présenté ce programme de lecture avec mes collègues de moyenne et grande section, parce qu'on a aussi une autre classe de moyenne et grande section et une classe de moyenne section pure. Et elles adhèrent aussi au projet, parce que pour les moyennes sections, il y a le volet de la compréhension qui est mis en place. Et donc, l'autre collègue de grande section a adhéré au projet. Donc, on a présenté aux parents sous forme de réunion de projet. Et ils ont tout de suite été très contents de voir que quelque chose d'intéressant a été mis en place pour faciliter l'apprentissage de la lecture au CP. Ils ont bien compris les enjeux de ce projet et puis ça leur a permis de voir les outils avec lesquels on allait travailler. On leur a présenté aussi les outils qui sont intéressants. Donc ils ont vu les outils, ils ont le retour dans les cahiers et dans des fichiers un petit peu à part. Donc du coup, ils sont partie prenante du projet. Et le retour, c'est que voilà, ils nous disent réellement que les enfants ont envie d'écrire, de lire, sont vraiment rentrés dans ce projet.
Donc voici ce témoignage de Fabienne Dupin. J'aimerais avoir votre première réaction à chaud, Stanislas Dehaene, et puis après, je vous poserai quelques questions.
Je trouve que cette institutrice a tout compris. Hein. D'abord, il n'y a pas de fatalité. Même des enfants qui ont des vrais problèmes de dyslexie peuvent apprendre à lire. Il s'agit simplement de leur enseigner convenablement. On peut former des groupes de niveau, mais l'objectif n'est évidemment pas de tout de suite de serrer les élèves en les bons et les mauvais. C'est au contraire de faire en sorte que chacun bénéficie d'un enseignement adapté et de faire remonter ceux qui sont en difficulté. Et effectivement, c'est la conscience phonologique qui est le meilleur prédicteur de la lecture. Donc, il faut travailler sur la conscience phonologique. Travailler, c'est un bien grand terme. Il faut jouer avec le langage le plus tôt possible. Et très certainement, à la grande maternelle, l'année qui va préparer l'entrée en CP.
Un élément nouveau, la compétence de la compréhension. La compréhension, c'est aussi un élément fondamental.
C'est-à-dire que, effectivement, les enfants qui ont un bon vocabulaire oral vont plus facilement apprendre à lire. Vous voyez, la cible de la lecture, c'est quand même l'accès au vocabulaire oral. Donc, effectivement, préparer à la lecture, on donne bien dans ce reportage les trois grandes composantes. La composante phonologique, jouer avec les éléments du langage parlé, le lexique des mots du langage parlé. Et puis, évidemment, l'entrée dans le système, c'est la compréhension de ce que c'est qu'une lettre. Et donc, il faut jouer avec le geste qui permet de produire des lettres, et il faut comprendre la forme des lettres. Pas tellement d'ailleurs le nom des lettres, comme c'était mentionné dans le reportage, c'est pas tellement important qu'un Y s'appelle un Y, c'est totalement arbitraire, ça n'a pas de rapport avec sa prononciation. Il s'agit plutôt d'apprendre la prononciation des lettres. Il vaut mieux dire à l'enfant que c'est un feu, que c'est un gueux, le nom a un peu d'importance.
Est-ce que le milieu social joue un rôle? Je sais que vous avez une partie dans votre ouvrage qui est dédiée à cette question-là. Est-ce que dans l'apprentissage de la lecture, et bon, bien sûr sur le plan aussi général de l'enseignement, ça a un rôle important?
Écoutez, malheureusement, oui. La France est l'un des pays montrés du doigt dans les enquêtes de l'OCDE, l'enquête PISA en particulier, comme c'est l'un des pays où le milieu socio-économique, la famille de l'enfant, a un rôle le plus déterminant dans ses performances à la sortie du système scolaire. C'est scandaleux. Ça veut dire que des enfants qui vont à la même école, en fonction de leur origine sociale, vont avoir des réussites très différentes. Donc il faut vraiment que notre système éducatif travaille là-dessus. Et ça passe effectivement par la maternelle, la grande section, les toutes petites classes, où on peut enrichir le milieu de l'enfant lorsque la famille ne le fait pas. C'est pour ça que je pense que toutes les classes devraient avoir une petite bibliothèque avec des tout petits livres. Il ne devrait pas se passer une semaine sans que l'enfant, très vite, emprunte des petits livres, emprunte des petits jeux qui vont, d'une certaine manière, égaliser les différences de niveau social.
Et alors, que pensez-vous de ces parents qui, à l'inverse, pourraient prendre peur d'avoir des enfants qui apprennent à lire très tôt, sans forcément avoir eu un apprentissage répété comme au CP?
De toute façon, il faut le répéter. Et il ne faut certainement pas s'arrêter au CP. Le reportage donne l'impression qu'il faut se concentrer là-dessus. Ce n'est pas vrai. Il faut continuer tout au long des premières années. Et même jusqu'à 9 ans, jusqu'à 10 ans, il y a encore beaucoup de choses qui se mettent en place dans la routinisation de la lecture et dans la compréhension de ce qu'on appelle les morphèmes, c'est-à-dire les racines des mots. Le français fait beaucoup appel à la connaissance des racines des mots. Donc on ne s'arrête certainement pas au béaba. Ça, c'est une erreur. Donc l'apprentissage de la lecture est prolongé pendant l'enfance, mais il n'y a aucune raison biologique dans le cerveau de l'enfant pour ne pas commencer tôt. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Il semble qu'on commence à apprendre à lire dans l'école française à 6 ans. D'autres pays, on commence à 7 ans. On peut commencer plus tôt. Il y a des enfants qui savent lire bien plus tôt. Et ça ne leur fait pas de mal. Il n'y a pas de raison de penser que les circuits cérébraux ne soient pas prêts à commencer à apprendre à lire plus tôt qu'on ne le fait actuellement.
Parce que autant pour tenir un stylo et écrire, effectivement, on peut penser qu'il y a des difficultés psychomotrices qui font qu'on limite l'utilisation du stylo, autant pour la lecture, c'est pas la même chose.
C'est-à-dire qu'il y a toute une composante visuelle de la lecture qui peut être mise en place assez tôt. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une expérience récente qui est assez amusante, qui montre que même des singes, des babouins, sont capables d'apprendre la composante visuelle de la lecture. Et c'est quelque chose qui s'imprime en nous assez facilement. Donc, dans l'expérience, des singes ont été simplement exposés à des mots en anglais, sans en savoir du tout la signification, ce qui est quand même très différent de la situation du petit enfant. Mais enfin, simplement par exposition à des chaînes de lettres, ils ont réussi à en extraire les statistiques au point de reconnaître lesquels étaient des mots anglais et lesquels ne l'étaient pas. Alors, nous faisons tous cela. Notre système visuel absorbe les statistiques de la lecture. Ça fait partie de l'apprentissage de la lecture. C'est ce qui se passe dans cette boîte aux lettres du cerveau. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut penser que ça commence assez tôt. L'enfant qui sera exposé à des lettres va commencer à en extraire la forme, les régularités et les statistiques.
D'où l'importance de la stimulation.
Il faut vraiment penser que l'apprentissage de la lecture, c'est tous les jours. Ça n'est pas quelque chose qu'on fait de façon irrégulière. Le programme qui a très bien marché sur le plan international, on en parle dans le livre « Apprendre à lire », c'est ce que les Anglais ont appelé l'heure de lecture. Ils ont structuré l'enseignement, un petit peu comme cette enseignante nous le disait pour la grande section, mais il faut le faire dans toutes les classes. une heure systématique d'enseignement de la lecture, elle-même subdivisée en exercices de lecture orale, exercices de compréhension, apprentissage de vocabulaire nouveau, un apprentissage très structuré. Et cet apprentissage tous les jours, avec consolidation de ce qui est déjà connu et apprentissage de choses nouvelles, c'est ça qui marche le mieux pour le cerveau. Et tous les jours, le cerveau va se consolider.
Dernière question, ce programme lecture, c'est réalisé en parallèle de vous, vos réflexions sur l'apprentissage de la lecture. Est-ce que vous y retrouvez des choses qui correspondent à vos souhaits? Comment voyez-vous l'avenir de l'apprentissage de la lecture à travers cette expérimentation, ce qui est en voie de généralisation, et puis vous, ce que vous préconisez?
Je pense que les enseignants ont besoin d'avoir plus d'outils rigoureux et les sciences cognitives peuvent jouer un rôle dans ce domaine en aidant les enseignants à disposer des meilleurs outils possibles. Donc, à nouveau, dans le petit livre, tout l'appendice est consacré à une structuration des apprentissages sous forme d'une mise en ordre des correspondances entre graphèmes et phonèmes. Nous donnons, sur la base d'une analyse lexicale du français, toutes les correspondances entre les lettres et les sons du français dans l'ordre de leur utilité, des plus fréquentes jusqu'aux moins fréquentes. Ceci peut être utilisé par l'enseignant pour organiser ses leçons. Le programme structuré qui est fondé sur des études faites à Grenoble va dans ce sens également. Nous allons également proposer dans notre laboratoire un logiciel qui permettra aux enfants de jouer avec les lettres et en ayant l'impression simplement de jouer, d'apprendre en réalité les correspondances entre les lettres et les sons. Voilà. J'espère que d'ici quelques années, nous verrons comme cela toute une panoplie d'outils qui seront à la disposition des enseignants, qui seront validés par les chercheurs en sciences cognitives, que l'enseignant pourra peut-être même prescrire aux enfants le soir, lui dire « Ce soir, tu devrais jouer avec ce jeu, telle partie, voilà, le son pH, tu n'as pas tout à fait bien compris, joue donc une demi-heure avec ce jeu et demain ça ira mieux. »
Eh bien, je vous remercie, Stanislas Dehaene. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe », ouvrage dont vous aviez la direction, ouvrage collectif, publié aux éditions Odile Jacob en 2011. Merci à vous.
Merci.